Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous ce matin. Je vous avoue que je suis un petit peu ce matin pensive, j'ai bien de la misère à dormir et ce matin au réveil, c'était clair pour moi qu'il fallait que je discute avec vous d'un sujet dont à mon avis, là, on parle pas assez parce que malheureusement, ça représente un grand enjeu de société, en tout cas en ce moment, il se passe quelque chose qu'on a de la misère à cerner et j'ai envie qu'on se pose la question, là, quelques minutes, puis qu'on en discute pendant la prochaine heure ensemble avec des invités que je vais vous présenter. Mais cette question qu'on pose d'ailleurs et qu'on s'est posée à quelques moments au cours des dernières années, c'est pourquoi toute cette haine? La haine, évidemment, dont je parle, c'est celle qu'on retrouve désormais en ligne, sur les réseaux sociaux, dans la rue, oui, dans notre entourage aussi, mais cette haine qui ne se cache même plus, qui sort de la bouche de gens qui prétendent tout le temps, après, quand on leur montre à quel point ils peuvent être violents, qui prétendent qu'ils ne savaient pas. Souvenez-vous, l'autre jour, mon collègue Paul Arcand fait une entrevue avec Sylvain Proulx, un gars là, qui a menacé le premier ministre du Québec. Tu menaces le premier ministre d'une province. Il dit « Ben moi, je connais pas ça, Facebook ». J'ai aucune violence. Là. Je passe la moitié de mon année en République dominicaine, fait que je suis pas trop au courant comment que ça marche. Non, tu peux pas te cacher derrière ton ignorance. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des menaces à peine voilées. Là. On parle de mots clairs qui devraient tous nous inquiéter parce qu'ils incitent au passage à l'acte et à la haine généralisée. François Legault, premier ministre, Pascal Bérubé, chef de l'opposition, sa conjointe Annie Soleil-Proteau, la dame, là, vous avez entendu ce matin à l'émission de Paul, la coiffeuse qu'on appelle Manon, là, c'était dans nos nouvelles aussi, à Thetford Mine. C'est sûr que Christian Dubé n'a pas aidé en faisant une affirmation gratuite. C'est sûr qu'il aurait dû vérifier avant de dire qu'elle était au courant qu'elle avait contaminé des gens. Mais toujours est-il que ce matin, cette dame-là est complètement détruite.
Vous saviez, monsieur, comment est-ce que je me suis fait détruire, que ce soit par l'histoire de monsieur Dubé avec sa nouvelle, les journalistes qui ont tapé dessus, le journal local de la place de Thetford. Les gens ont tellement été méchants et j'ai tellement été jugée sévèrement en étant irresponsable. C'est beau de mettre le masque, c'est beau de se laver les mains, je trouve ça parfait. Mais si les gens avaient un petit peu plus d'humanité, ça serait pas pire pantoute pour compléter les consignes. C'est plus dur à vivre de se faire détruire comme ça que d'avoir vécu l'histoire du COVID.
Imaginez. Et vous, ce qu'elle vient de dire, Manon, là, elle vient de nous dire c'est pire avoir été l'objet de menaces sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou même dans mon entourage, d'avoir été traîné dans la boue publiquement. C'est pire que la COVID. C'est quand même pas rien. Et en même temps, elle nous rajoute quelque chose au masque et au lavage de mains. Elle dit rajoutez donc un petit peu d'humanité. Et je trouve que c'est vrai. On dirait qu'on a comme perdu depuis 6 mois une partie de notre humanité. Pas tout le monde, mais on dirait qu'on se permet des affaires qu'on se serait peut-être pas permis avant. Fait que je vous pose la question. Est-ce que de votre côté, il faut qu'on se regarde aussi. On est tous à bout en ce moment. On est tous sur le nerf. Est-ce que la pandémie vous a rendu un petit peu plus agressif, vous? Des fois, c'est juste, tu as moins de cordes que tu en avais. Tu es plus le nerf à vif. Avez-vous été l'objet de menaces vous-même, de critiques, d'insultes que vous n'aviez pas vu venir? Puis vous dites, ah, c'est peut-être le contexte pandémique qui fait ça. Alors, je vous donne nos numéros pour nous joindre, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Avec moi, Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois, qui a été lui-même victime d'un attentat alors qu'il était journaliste au Devoir en 1973. Il était également député du Parti québécois en 1984, quand Denis Lortie est rentré fortement armé pour se débarrasser du premier ministre René Lévesque en espérant tuer tous les députés qui étaient là. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On se parle de ça au moment où, d'ailleurs, ailleurs, sur la planète, en France, entre autres, on est en train de faire le bilan et le procès de l'affaire de Charlie Hebdo, où une douzaine de caricaturistes ont perdu la vie à cause de la haine qu'ils avaient généré, qu'ils avaient attiré chez des fous complètement. Je veux dire, nous aussi, on a nos exemples au Québec.
Oh oui, on a nos exemples. Moi, tu parlais de mes expériences passées. J'étais Tu vois, moi, j'ai vécu entre mes deux vies politiques au Rwanda, et puis j'étais là quand la guerre a commencé. Et bon, j'étais revenu quand le génocide a eu lieu, mais il y avait toute la radio Kigali qui distillait sur la haine et la colère et la xénophobie envers la minorité Tutsi. Alors, ça a créé toute une dynamique. Bon, moi, je pense que actuellement, on est à une époque où les caisses de résonance sont plus accessibles, plus grandes, et ça entretient dans l'opinion publique et auprès de bien des gens une colère ou une frustration. Les gens sont frustrés. Et quand il y a des crises comme celle-ci où les États sont en train d'ordonner aux citoyens d'avoir des comportements plus limitatifs, ben les gens sont frustrés. Je m'excuse si mon petit oiseau fait du bruit, là.
C'est un oiseau?
Ouais, c'est ma perruche qui s'énerve. Là.
Même les perruches s'énervent. Mais là, si les perruches s'énervent, Jean-Pierre, c'est sûr que ça va pas bien.
C'est pas drôle.
Mais ces caisses de résonance résonnent-elles plus là, parce que depuis 6 mois, on est dans cette espèce de marasme pandémique?
C'est sûr que ça résonne plus parce que, justement, on est dans une période de crise qui limite les possibilités ou qui embête les gens et qui les frustre. Les gens perdent leur emploi, les gens sont... Alors, il y a toutes sortes de frustrations. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont perdu leur emploi, qui sont malades, qui sont frustrés puis sont en colère par rapport à des gens qu'ils trouvent inconscients, puis inconséquents, puis ignorants. Puis, à l'inverse, t'as des gens à qui on brime les libertés, du moins, c'est ce qu'ils prétendent, et eux aussi sont frustrés, sont en colère. Fait que finalement, on se retrouve dans une société actuellement où il y a beaucoup de monde en maudit, beaucoup de monde en colère. Et si tu viens à une époque où, avec les réseaux sociaux, tu peux faire valoir ta colère, la déverser sans aucune retenue, ben là, on se retrouve avec ce dont tu parlais au début, c'est-à-dire une situation où on empire la frustration, on l'amplifie. Il y avait un texte ce matin dans une chroniqueuse du Devoir qui s'appelle Émilie Nicolas, intéressant parce que finalement, elle nous remettait, je vais aller chercher, même si je m'approche de ma perruche, ton titre, c'était « Humilier ne mène nulle part ».
Oui, exactement.
Combien d'entre nous, y compris des journalistes, des politiciens qui se sont fait attaquer, mais il y a une part de responsabilité qui leur revient. Si tu critiques les citoyens qui n'ont pas des comportements civiques, en les humiliant, en les traitant d'imbéciles, d'ignorants, d'idiots, etc., tu amplifies aussi le problème. C'est-à-dire, tu crées une frustration encore plus grande, puis une colère encore plus grande, qui, à un moment donné, risque justement, chez des gens qui n'ont pas de contrôle, de déborder avec des menaces de mort. Puis parfois, avec des menaces qui sont plus juste des menaces, mais que les gens passent à l'acte.
Ouais.
Bon, moi, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que j'étais un journaliste d'enquête, puis de la frustration et la colère des gens de la mafia à Montréal que je picassais constamment a fait à un moment donné que leur base a débordé. Là. Bon. Mais c'est pas pour moi d'arrêter, mais c'est toujours relié à une émotion fondamentale de l'être humain, c'est la colère, la frustration pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Ça veut dire que, comme je le disais tantôt, tu as des gens qui sont frustrés, en colère, parce que finalement, ils sont victimes de la COVID, puis que soit économiquement, soit au plan de la santé, soit au plan social, puis tu as des gens qui sont victimes de la COVID parce que on les empêche de faire tout ce qu'ils veulent, de faire les parties qu'ils veulent, de se réunir. Alors, encore une fois, il y a pas mal de monde en maudit actuellement au Québec. Là.
J'ai trouvé une citation ce matin qu'on attribue à Bouddha. Mais oui. Alors, je veux bien. Mais je trouve que la phrase qui est une question est forte. J'aimerais ça qu'on trouve la réponse, puis assez vite. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle?
Ben, voilà. Ça reprend un peu la chronique dont je te parlais tantôt. Là. Humilier, ça ne donne à rien. Moi aussi, dans le privé, à des moments donnés, j'ai déversé ma frustration envers des gens que je trouve un peu inconséquents, inconscients et un peu ignorants. Mais de là à la déverser publiquement, là, ça crée une dynamique à ce moment-là qui est vraiment toxique. Puis la citation dont tu donnes, que tu viens de lire, est particulièrement éloquente. Ça veut dire que la haine entretient la haine. Et c'est pas juste à notre époque, à toutes les époques où il y a eu des crises. Tu sais, par exemple, en Allemagne nazie, qu'est-ce qui a amené le nazisme à se développer? Ben, c'est la frustration des Allemands qui avaient perdu la Première Guerre mondiale et puis qui s'étaient fait rentrer dans l'ordre de force des mesures de pénalité que les Alliés leur avaient imposées, puis ça a donné et puis en plus la bêtise, l'ignorance.
Oui, mais j'allais te le dire, la bêtise, l'ignorance, peut-être un manque d'éducation, tu sais, malheureusement, puis on va peut-être le voir, regarde, en ce moment, on n'en parle pas assez non plus, à mon avis, mais on parle beaucoup de santé, puis on comprend pourquoi, mais parle-t-on assez d'éducation? En ce moment, là, il y a plein de générations là, qui ont des bouts de cours. Si t'es chanceux, t'as un prof qui donne le cours dans son entièreté. Mais je veux dire, tout ça pour dire que l'éducation aussi, en ce moment, là, on doit couper les coins ronds pas mal. Mais tu sais, moi, quand je voyais, je lisais hier, une personne sur quatre pense que l'Holocauste, c'est peut-être pas arrivé. T'as envie de dire, voyons donc, là. Moi, je t'avoue, je suis découragée. Là, tu me parles de toxicité, tu parles de gens qui sont peut-être en maudit. C'est en maudit, calme-toi, là.
C'est ça. Le problème, c'est que c'est une émotion très forte, la colère et puis la frustration. Et puis, il y en a qui sont pas capables de se contrôler. Ouais. Les chicanes de ménage, puis les conflits entre les personnes, les bagarres, les automobilistes qui pognent les nerfs, puis qui sortent, puis qui se battent, puis qui parfois se retrouvent pognés avec des drames parce qu'il y a eu des morts d'hommes ou morts de femmes. Ben là, tu te dis, oui, mais jusqu'où la colère qui n'est pas contrôlée peut aller? Elle peut aller très loin. La plupart des conflits internationaux sont liés à des colères ou à des rancunes entre citoyens, entre peuples, entre gens qui sont pas pareils.
Mais tu sais, c'est quand même pas rien. Quand je disais, on est rendu, on menace ouvertement le premier ministre du Québec, François Legault, le chef de l'opposition, Pascal Bérubé, du Parti québécois, et sa conjointe. Tu sais, j'écoutais Patrick Huard ce matin qui doit s'excuser parce qu'il a pris des acteurs. Je disais, y a-tu le droit de prendre les acteurs qu'il veut, là, tu sais, sans qu'on crie à...
Les
actrices qui jouent les rôles sont menacées.
Mais là, il y a une bêtise. T'sais, il y a toutes sortes de gens qui ont des comportements inacceptables. Autrement dit, il y a une différence entre être stupide et avoir un comportement stupide. Quand on traite quelqu'un de stupide, ça l'attaque. Quand on dit que son comportement est stupide, déjà, tu peux peut-être un peu plus lui parler. Mais il y a des gens dans les deux extrêmes. T'sais, il y a des puristes actuellement ou des gens pour qui la rectitude politique à tout égard, au plan, par exemple, culturel dont tu parles, t'sais, les gens sont devenus intolérants. Il y a une espèce d'intolérance qui intoxique notre société, qui fait que on n'est pas capable de dialoguer parce qu'on pense que c'est notre point de vue qui prévaut. Et puis
à tuer ou vouloir tuer, là, parce que là, c'est des intentions, mais je dis, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui dit « tuez-le, là, faites la terre, tuez-moi ça », je dis, ça, là, c'est menace de mort. Comment ça se fait?
Menace de mort, ça peut être vous dire quelqu'un qui a perdu la cape et qui, dans le fond, ne passera jamais à l'acte. Mais tu le sais pas, justement. C'est pas écrit dans son visage, c'est pas dans ses propos, on sait pas ce qu'il y a dans la tête. Et il y a des gens qui peuvent, eux, être influencés par ces propos-là. Là, celui qui le dit, peut-être qu'il perdra pas le Nord puis qu'il ira pas jusqu'à faire ce qu'il prétend qu'il le ferait, mais il y a peut-être quelqu'un qui a plus de problèmes psychiques et qui, lui, va passer à l'acte. Combien de tueries aux États-Unis ont été commis par des individus qui avaient été influencés justement par les médias sociaux?
Oui, mais je trouve qu'on a aussi... Oui, mais on a notre lot aussi, Jean-Pierre, et moi, c'est ça qui m'inquiète. Je veux dire, toi, t'aurais pu mourir aujourd'hui. Tu serais peut-être pas là si l'ortie s'était pas trompé d'heure en 84 quand ils ont débarqué à l'Assemblée nationale.
Oui, moi, je suis arrivé, disons que quand la tuerie était finie, mais l'ortie s'était trompé. S'il était arrivé à 14h, ben, avec tous les députés à l'Assemblée, ça aurait été un carnage épouvantable. Ouais. Déjà, ça a été un carnage, puis ça a été plutôt malheureusement des fonctionnaires de l'Assemblée qui ont écopé. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est que la classe politique. Et puis, c'est pour ça que il n'y a pas de sécurité absolue. Puis, ce qu'il faut, c'est justement entretenir un dialogue. Mm. Et tu parlais du Dalai Lama, ou de Bouddha, mais enfin,
même famille.
Son porte-parole moderne, c'est Dalai Lama. Mais quand tu lis ces auteurs-là, Tu te rends compte?
Mais c'est ça, lire, tu l'as dit. Hein? Lire, il faudrait peut-être lire un peu, s'éduquer, puis se laver la bouche avec du savon, ou se tourner la langue cette fois dans la bouche. On faisait ça à l'époque, avant de dire une niaiserie, tu y penses. Là.
Oui, puis l'éducation dont tu parlais, si importante,
ouais.
C'est pas juste à l'école, c'est la responsabilité des parents d'utiliser le contexte actuel. Puis les dérapages.
Ouais. Jean-Pierre, on doit arrêter ici parce qu'il faut absolument que j'aille à la pause. Nos lignes sont pleines, les gens veulent intervenir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de mettre la table sur ce sujet. Jean-Pierre Charbonneau, ex-député du Parti québécois. Merci bien. Il a été victime lui-même d'un attentat au devoir parce qu'il avait reçu des menaces et on s'en est pris carrément à lui, évidemment. Vous allez me dire, c'était la mafia. Mais il y a une mafia maintenant sur les réseaux sociaux. La petite mafia, là, ceux qui crachent du fiel là, comme de l'oxygène qui respire. C'est épouvantable. Alors, on y va. On vous donne la parole là-dessus. 514-790-9850. D'après vous, c'est-tu la faute de la pandémie si le monde est plus agressif? À tout de suite. Pourquoi toute cette haine dans la société québécoise? Est-ce que c'est la pandémie qui nous a rendus tous un peu plus agressifs? Marie-Ève est une auditrice qui a été l'objet de menaces. Bonjour, Marie-Ève.
Bonjour.
Racontez-moi un peu.
Moi, je suis infirmière auxiliaire en CHSLD. Alors, moi, quand j'entends des choses comme « faut pas se protéger », tout ça, c'est une invention, tu sais, j'ai tendance à réagir un peu.
Mm-hmm.
Alors, l'autre jour, sur les réseaux sociaux, suite à un article de TVA Nouvelles, j'ai réagi en disant que je trouvais ça dommage que les gens suivent aveuglément les conseils de personnes qui agissaient presque comme des gourous. Je me suis fait répondre « suicide-toi, on n'a pas besoin de moutons dans notre société ».
Oh mon Dieu. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez réagi par rapport à ça, Marie-Ève? Est-ce que vous vous êtes sentie véritablement menacée ou est-ce que vous dites bof?
Ben, moi, j'ai signalé le commentaire puis je me suis dit, tu sais, moi, ça m'a pas affectée, mais si ça avait été quelqu'un de plus fragile, là, tu sais, puis j'en voulais pas à cette personne-là nécessairement, là. Moi, j'en veux plus aux gens en haut de ça qui entraînent un paquet de monde dans des histoires plus incroyables les unes que les autres,
mm-hmm.
puis qui entretiennent la haine, qui entretiennent le clivage de la société en deux parties. C'est vraiment à ces gens-là, moi, que j'en veux. Là, je comprends pas. Ils amassent de l'argent, ils réussissent à... Il y a de plus en plus de mes amis à chaque semaine qui sont de plus en plus vindicatifs dans leurs commentaires, plus à rien de ce qui se passe.
Ouais, c'est ça, vous le voyez vous aussi dans votre entourage. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vais parler à Kim Lavoie, elle est professeure en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Lavoie.
Bonjour.
Je rajoute que vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale. On est directement là-dedans, hein, dans votre champ d'études. Le comportement humain en temps de pandémie nous laisse pantois par les temps qui courent. Beaucoup de frustrations qui sont donc exprimées par des gens qui se seraient peut-être gardé une petite gêne avant. Comment on explique ça? Est-ce que la pandémie peut tout expliquer?
Ben écoute, je pense que les gens, ça fait très longtemps qu'on vit sous les conditions de pandémie et personne n'a été préparé à ça. Et je pense que dans l'ensemble, les gens sont très, très, très frustrés. Et je pense que la raison principale, ben franchement, c'est qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à des consignes sanitaires et un manque de transparence sur les raisons pour les changements dans les consignes, des choses qui semblent un peu comme des virements de bord. À titre d'exemple, c'est des masques.
Mm-hmm.
Au début, c'était pas nécessaire. Là, c'est essentiel. Par contre, pendant longtemps, c'était pas obligatoire. Ou bien c'était obligatoire, mais on va pas mettre imposer des amendes pour les gens qui ne le respectent mm-hmm. pas.
Mais est-ce que tout ça...
Que ça n'est pas nécessaire.
Oui, ouais, mais ça explique, d'après vous, cette confusion autour de toute la couverture de la pandémie, de la façon dont on la gère et tout ça peut générer autant de haine?
Oui, parce que quand il y a de la confusion, ça génère énormément d'anxiété. Et je pense qu'on oublie à quel point respecter toutes ces consignes sanitaires, c'est difficile. C'est pas normal pour nous tous. Et je pense qu'on n'a pas été assez reconnaissant des sacrifices que les gens font depuis 6-7 mois, les gens qui voient plus leurs parents, grands-parents, les gens qui ont sacrifié beaucoup au niveau du travail, revenu. Et je pense que à cause de cette confusion, pour les gens qui sont pas d'accord avec ça, ou la porte de masque, par exemple, ça leur convient pas, le simple incertitude ou le fait qu'ils sont pas peut-être persuadés, ben là, il y a quelques mois, le masque n'était pas nécessaire. Alors peut-être il nous mentit, on comprend pas, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'on a besoin de toutes les consignes dans la communauté, mais pas à l'école? Alors ça prend pas un doctorat pour se dire, ben ça passe pas, ça c'est complètement incohérent.
Mais on pourrait, Madame Lavoie, simplement émettre sa frustration puis dire, le gouvernement nous a justement a créé de la confusion. On pourrait le dire, un peu comme vous venez de le dire, sans dire « tuez-moi ça, sortez-le ». Marie-Ève, qui est une infirmière auxiliaire qui a travaillé en CHSLD en temps de COVID, qui a été l'objet de menaces, on lui a dit « va donc te suicider ». Comprenez, c'est que là, je comprends là, ce que vous expliquez, en même temps, est-ce que ça donne le droit de menacer de mort d'autres personnes?
Ben écoute, si vous me demandez cette question, c'est
clair que non.
Non, ouais. C'est clairement non. Et je pense que si je mette ma casque clinique comme psychologue, on a le droit de se sentir frustré. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est ouais. Il y a des façons de s'exprimer. C'est pas approprié, c'est sûr. Mais je pense que tout ça pour dire, ça sabote beaucoup cette confusion, cette virement en guillemets de bord, et surtout, et je dis ça depuis le début de pandémie, manque de transparence de la part du gouvernement. Pourquoi vous changez ça maintenant, cette consigne-là? Pourquoi on peut pas être plus que 10 à la maison, mais on peut être 50 à 250 dans un théâtre? Alors, les gens vivent beaucoup de frustration en lien avec cette incohérence et ils cherchent quelqu'un à blâmer. Les gens ont perdu énormément au niveau social, financier, interpersonnel. Imaginez les gens qui sont célibataires en ce moment, les jeunes qui ont manqué leur bal de finissant. Il y a énormément de sacrifices qu'on fait tous. Et je pense que les messages qui sortent beaucoup du gouvernement, oui, un peu de « oui, merci, continue » et tout, mais beaucoup de « écoute, si vous ne faites pas bien ou si vous ne nous écoutez pas, on vous veut punir », plutôt que les messages « écoute, on comprend, c'est pas facile, vous faites des sacrifices, merci beaucoup et voici comment vos sacrifices portent fruit. Voici comment le Québec, le Canada s'en sort comparativement à d'autres pays qui s'en sortent moins bien. »
D'après vous, le ton n'est pas le bon, hein? C'est ça, vous vous dites « le ton n'est pas le bon ».
Le ton n'est pas le bon. Et en plus, on sait, si on se fie aux sciences comportementales, des recherches depuis 50, 60 ans, c'est plus les carottes, les récompenses pour avoir fait la bonne chose qui va changer le comportement des gens à long terme plutôt que des punitions à court terme. Oui, si on dit on va vous imposer une amende de 1 000 $ si vous ne portez pas le masque, oui, les gens vont peut-être plus porter le masque, mais ça fait rien pour leur persuader de l'importance pour qu'ils soient justement d'accord pour la porte de masque. Mm-hmm. Oui, on veut qu'ils portent le masque, mais idéalement, on veut qu'ils soient d'accord que c'est important de le porter et ça va justement être bénéfique pour nous tous.
Ouais, effectivement. Si on essaye de en mode solution, Madame Lavoie, là, d'essayer de trouver une façon de freiner ça, de tempériser la colère de tout le monde, la frustration, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux gens qui me la voient?
Ben écoute, je pense que la première chose, c'est justement ça, mettre plus d'emphase dans les messages, dans les conférences de presse. Regarde, après que les gens ont observé des consignes, voici qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cas, voici qu'est-ce qui s'est passé au niveau des hôpitaux, voici comment ça va mieux, voici comment vos sacrifices nous permettent de maintenir notre liberté, de maintenir les commerces et les restaurants ouverts, de retourner à l'école, qui est important pour nous tous. Alors, je pense que, prime abord, il faut vraiment renforcer plus les bons comportements des gens et se rappeler que même si vous n'êtes pas d'accord, vous portez le masque, vous ne vous sentez pas particulièrement touché par la COVID, ben, si assez de personnes ne respectent pas les consignes, ben, le gouvernement, ils n'auront pas le choix de refermer. Et les lois sont seulement là parce que les êtres humains, malheureusement, ne sont pas toujours capables de s'autogérer, hein. Mmh. On a des lois et des mesures punitives plus fortes qu'on entend maintenant parce que le gouvernement regarde qu'est-ce qui se passe et dit, mon Dieu, tu sais, ils ne le font pas par eux-mêmes. Ils n'observent pas pour eux-mêmes. Mm-hmm. Alors, ils n'ont pas le choix de faire ça. Alors, si on ne veut pas se faire imposer ces consignes, ben, c'est à nous tous de se ramasser ensemble en solidarité. en solidarité pour se protéger.
Voilà.
Et pas juste en lien avec la santé, mais en lien avec l'économie aussi.
Ouais. Merci beaucoup, Kim Lavoie. Merci bien. Professeur en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale. 514-790-9850 pour Montréal. De l'extérieur, partout au Québec, le 1-866-790-9850. D'après vous, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la pandémie? Toute cette frustration qui amène de plus en plus de gens à ouvertement faire des menaces à l'endroit d'autres personnes. On va en parler aussi avec un criminologue, un criminaliste tout de suite après. Là, il va nous dire véritablement qu'est-ce que la police peut faire dans le fond. Là. À tout de suite, tout le monde. L'auteur bien connu qui nous a habitués à plein d'histoires inventées, d'horreurs, a fait un post ce matin qui a attiré mon attention, puis je voulais lui parler parce que c'est tout à fait dans notre sujet. Bonjour Patrick Sénécal.
Bonjour Isabelle.
Ce que tu disais en fait, Patrick, c'est que t'en revenais pas non plus, toi. En gros, là, je paraphrase, mais cette haine sur les réseaux sociaux, ces commentaires, cette violence... je t'entends.
Ben, en fait, ça dit aussi, ça me... Ben ça, la haine sur les réseaux sociaux, puis le monde qui s'en va chez le diable, puis ça fait longtemps, évidemment, que je dénonce ça. Je trouve ça à chaque semaine, je me demande pourquoi je suis encore sur Facebook. Là. J'ai comme une espèce de relation à mon haine avec ce média-là. Ce qui m'exaspère un peu en ce moment, c'est tous les gens qui, tout à coup, sont sidérés de découvrir que là, il y a des gens qui manifestent contre le port du masque, il y a des gens qui sont qui crient au complot, il y a une manifestation il n'y a pas longtemps, puis dans la manifestation, les gens mélangeaient Trump avec les patriotes, c'était du grand n'importe quoi.
Mm-hmm.
Et moi aussi, je trouve que c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Moi, les complotistes, les anti-masques,
au-delà de ça, Patrick, c'est
là,
vraiment...
C'est au-delà de ça, c'est... Ouais. Oui, vas-y.
Non, mais j'allais dire, c'est quasiment tout le monde, là.
Que tout le monde qui quoi?
Ben, qui insulte son prochain, là, c'est...
Ben, c'est ça. Alors là, suite à ça, justement, là je vois plein de monde sur Facebook qui découvre l'autre, là, qui découvre l'humain, qui découvre que, ah, ben tiens, il y a des gens comme ça, puis là, ils sont exaspérés, puis ils insultent, ils disent que c'est une gang de caves et tout ça. Et moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est comment ça se fait que tout à coup, comment ça se fait qu'on s'étonne de ça, puis qu'on... Et en plus, on s'écrit entre nous, là, parce qu'évidemment que les gens qui sont pour le masque, qui sont pour les mesures sanitaires et tout ça, on s'écrit entre nous autres, et là, on dénonce ces gens-là, on les insulte, mais entre nous, fait que je me dis, qu'est-ce que ça donne? À qui on s'adresse quand on fait ça, à part s'adresser entre nous en se rassurant, en disant, mon Dieu, que ces gens-là sont caves, qui sont imbéciles, qui sont monstrueux, mais on le sait entre nous, fait qu'on se dit tout, oui, c'est vrai, mais ça change absolument rien. Dans le fond, on se rassure entre nous, comme eux autres doivent se rassurer entre eux puis doivent dire la même affaire de nous autres. Ça fait juste creuser les deux camps, en fait, je trouve, cette attitude-là, au lieu d'essayer de comprendre l'autre. Parce qu'on n'aura pas dire que les gens qui sont anti-masques, c'est des imbéciles, c'est des cons, c'est des caves. On peut bien les insulter comme ça, mais au bout du compte, si on n'essaie pas de comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi c'est comme ça, ben ça va juste creuser le fossé, puis on va s'insulter chaque bord de la clôture comme des chiens attachés à leur laisse.
Ouais.
Puis ça, je trouve que ça ne peut pas aider. C'est clair que ça ne peut pas aider. Puis ce que je m'étonne là-dedans, c'est que les gens découvrent qu'il y a des gens comme ça. C'est comme si tout à coup, la COVID faisait réaliser que, ben non, c'est pas tout le monde qui pense pareil. Ben non, il y a des gens qui, derrière leur clôture tranquille à la maison, ont des idées différentes, puis que des fois, sont un peu plus... de droite ou de ci que nous autres, mais tant que ça ne touche pas l'universel, on dirait qu'on faisait comme si ça n'existait pas. Et ça, je trouve ça, comment dire, je veux dire, moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Là. Je ne suis pas surpris de découvrir que dans l'hommerie, qu'il y a de l'homme dans l'hommerie, qu'il y a de l'hommerie dans l'homme. Voyons, quand même, c'est
toutes mes
organisations. Je ne suis pas surpris de ça, mais quand je vois les bien-pensants s'étonner de ça et faire, ben, mon Dieu, il y a des gens, c'est épouvantable, qu'est-ce qui se passe? On est en train de devenir fous. Mais non, on n'est pas en train de devenir fou. Ça a toujours été, mais la COVID fait surgir tout ça.
Donc, tu dis cette haine, pour toi, t'es peut-être trop dedans que tes romans, mais pour toi, cette haine a toujours existé?
a toujours été latente, en tout cas. Les gens ont toujours eu,
en dedans,
des frustrations, des qui attendaient des occasions que ça sorte, puis ça sortait juste autour d'une bière dans un bar entre deux, trois personnes qui s'entendent, qui disaient, puis là, il n'y a pas. Mais là, Facebook, les médias sociaux, vus avec la pandémie, donne une légitimité tout à coup pour que ça sort, ça explose. Là, tu découvres que, ah, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Ah, il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi.
Ouais.
Et là, ça gonfle, ça explose. Et la COVID est un maudit beau prétexte pour sortir toutes les frustrations que les gens ont, qui accumulent. Parce que moi, je pense que c'est beaucoup l'accumulation de frustrations diverses. Moi, je pense que beaucoup de ces gens-là sont bien malheureux dans la vie. Il y a des choses qui les rendent bien malheureux et que ça prend des boucs émissaires. Alors là, le bouc émissaire, c'est la COVID. Et ceux qui chialent contre les anti-masques à ce point-là, je pense qu'eux autres aussi ont besoin de boucs émissaires parce qu'il y a quelque chose qui est frustre en ce moment, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai pas le goût d'aller écrire, même si je suis pour le port du masque et tout ça, même si je suis j'ai pas envie de tout relayer tous les articles qui parlent des conspirationnistes puis de rire d'eux autres puis de les insulter. J'ai pas envie de faire ça dans ma vie.
Ça marche des deux bords. Ouais. Merci beaucoup, Patrick Sénécal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Patrick Sénécal, auteur. On a Maître Jean-Pierre Rancourt avec nous. Je voulais avoir l'avis d'un criminaliste pour savoir, parce que là, on dit la police, dans le cas, entre autres, de Pascal Bérubé, dans le cas de François Legault, sont des politiciens, mais aussi dans le cas de personnalités publiques qui les côtoient, Annie Soleil-Proto, entre autres, ils ont porté plainte, là, la police a été mise au courant de ça. En même temps, ce matin, j'écoutais le porte-parole du SPVM qui disait, oui, en même temps, on peut se sentir menacé, mais le propos n'est pas toujours aussi menaçant qu'on le pense. Maître Rancourt, merci de nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut là, pour qu'un propos soit complètement considéré comme une incitation à la violence ou une incitation au crime? Maître Rancourt, oui, vous êtes là?
Oui, le test du juge, c'est de savoir est-ce que ces propos-là ont été prononcés dans le but que la présumée victime là, le prenne au sérieux. Et l'autre test, est-ce que les propos qui ont été tenus, est-ce qu'une personne raisonnable prendrait ça au sérieux? Est-ce que réellement on peut penser que craint notre sécurité à cause des propos qui ont été prononcés? Alors, c'est ça le test que le juge doit décider. C'est ça le test aussi pour le procureur de la Couronne pour porter une plainte. Je vous donne l'exemple. Par exemple, un de mes amis me joue un tour et je lui réponds au téléphone, mais quand je vais te rencontrer, je vais te tuer, là.
Mm.
Ben, on sait bien que j'avais pas l'intention. Puis l'autre, il sait bien que c'est pas sérieux. Mais quand le test, est-ce qu'une personne raisonnable va penser que les propos sont sérieux et font en sorte que ça met notre sécurité en danger, ben c'est là la menace.
Oui, mais là, on a des cas de politiciens, de personnalités publiques. Est-ce que la police est vraiment assez outillée pour être capable d'aller jusqu'au bout de ces histoires-là puis en faire des exemples d'une certaine façon?
Ben dans ces cas-là, l'individu ne se cachait pas, donc les individus ne se cachaient pas, donc on les a retrouvés, on les a interrogés. Ils peuvent présenter une défense en disant, écoutez, j'avais pas l'intention que la personne prenne ça au sérieux. Sauf que le test va plus loin que ça. Est-ce qu'une personne, comme vous dites, une personne raisonnable peut penser que c'est sérieux? À ce moment-là, on accuse. Il faudra toujours se défendre l'individu. Mais moi, je pense que compte tenu du fait que c'est de plus en plus, les gens ne se cachent pas, là.
Ouais.
Ont des ces termes-là qui, en tout cas, peuvent être interprétés comme étant sérieux. Ben moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des accusations portées, puis un juge décidera, mais faut pas laisser ça aller, parce que si on laisse ça aller, parce que tout le monde nous entend, là, hein, si on n'accuse pas ces gens-là, ben ça va escalader. On va avoir d'autres menaces, puis d'autres menaces, puis d'autres menaces. Et ces gens-là, les politiciens, là, et qui travaillent pour la population, oui, ils sont payés, mais ils n'ont pas besoin de vivre avec ce stress-là.
Oui, effectivement. Qu'est-ce que la loi dit en ce moment, Jean-Pierre Rancourt, pour quelqu'un là, qui aurait menacé ouvertement quelqu'un d'autre, connu ou pas connu, sur Internet, entre autres? Et c'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens me disent, allez voir le nouveau film sur Netflix, derrière nos écrans de fumée. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là-dedans, sur le phénomène de cette haine sur les réseaux sociaux, qui sont nourris beaucoup par des algorithmes, pardon, mais en même temps, dans la vraie vie, on fait quoi, là? Qu'est-ce qu'ils ont comme peine, ces gens-là, si on les attrape?
Ben, si, par exemple, on prend la menace à M. Bérubé, par exemple, et l'individu serait déclaré coupable de ça, d'une menace, c'est sûr qu'on ne l'envoie pas en prison, il n'y a pas de dossier judiciaire, il va toujours plaider que bon, il n'y avait pas l'intention de mettre ça à exécution, et ça, c'est pas un élément essentiel de l'infraction, là. C'est pas parce que tu n'as pas l'intention de mettre à exécution ta menace que ça n'est pas une. Mais à ce moment-là, c'est sûr que le juge rendrait une sentence avec obligation, avec des conditions de aucun contact avec, par exemple, ces victimes-là. Et aussi, peut-être, on pourrait aller plus loin, puis lui interdire pour une certaine période d'utiliser Internet. Alors, il y aurait des mesures de prise, c'est pas nécessairement de la prison, mais des sentences quand même qui reflèteraient là, qu'il faut protéger ces gens-là et de façon adéquate.
Ouais, merci beaucoup, Maître Rancourt. Merci bien.
Merci et bonne journée à vous.
Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On a Annie Soleil-Proteau, justement, à qui on va parler. Et vos commentaires là-dessus. On se demande si effectivement la pandémie, une fois de plus, a le dos large pour expliquer des comportements haineux. Il y en a trop. Sincèrement, il y en a trop. À tout de suite, tout le monde. L'animatrice Annie Soleil-Proteau, qui est aussi la conjointe du chef de l'opposition, Pascal Bérubé, est avec nous. Bonjour, Annie Soleil.
Bonjour, Isabelle.
Écoute, on a suivi avec beaucoup d'intérêt l'avancement de votre dossier de plainte. Peux-tu me dire où ça en est aujourd'hui? Parce que encore hier, Pascal Bérubé, ton conjoint, a été l'objet de menaces, même si vous avez entre-temps fait une plainte officielle à la Sûreté du Québec. As-tu de ton côté, toi aussi, reçu d'autres menaces?
Non, moi, j'ai pas reçu d'autres menaces officielles. De mon côté, là, ça va plutôt bien depuis que cette plainte-là a été portée. Sauf que ça a un effet très paradoxal hein, quand on est menacé comme ça de façon très claire. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange de gens qui se réveillent puis qui se disent comme, ben voyons donc porter plainte pour une affaire comme ça. Puis là, ben ça donne lieu à plein d'autres personnes qui se fâchent puis qui envoient pas nécessairement des menaces, mais des messages assez haineux aussi. Puis c'est paradoxal parce que nous, la raison pour laquelle on fait ça, dénoncer des comportements menaçants comme ceux-là, c'est que ça se fait pas. Il y a un prix à payer à un moment donné si, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, quelqu'un décide qu'il fait une tentative d'intimidation ou une menace. Dans notre cas, c'était une menace de mort. Puis c'est pas la première fois où ça arrive et on n'avait pas le choix de dénoncer, là. Ça peut pas rester là comme quelque chose qui est banal puis qui est supposé être normal. Non, non. Moi, si tu me dis que je pourrais plus marcher dans la rue en sécurité, ben excuse-moi, mais c'est une menace puis c'est assez clair.
Tout à l'heure, tu vois, notre criminaliste Maître Rancourt nous disait, il faut pour que la menace soit prise au sérieux par les autorités, que la victime la prennent véritablement au sérieux. Alors, tu as des gens comme Marie-Ève, tout à l'heure, notre auditrice, infirmière auxiliaire en CHSLD, qui a été l'objet de menaces parce qu'elle disait « Hey, portez vos masques, puis arrêtez les complotistes. » Bon, elle s'est fait garrocher beaucoup de roches. On lui a dit « Va donc te suicider. » Bon, elle a dit « Moi, ça m'a pas trop affecté. » Donc, dans ce cas-ci, pas aller faire de plainte à la police, mais c'est délicat, je trouve, cette espèce de ligne où tu dis « Il faut que ça te touche vraiment parce que... » Il me semble que ça devrait alerter de toute façon les autorités à partir du moment où il y a menace de mort directe.
Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec toi Isabelle. Je trouve que c'est exactement ça la ligne. Moi que j'ai peur ou que j'ai pas peur,
exact.
Je le sais là, que légalement c'est vraiment ça la ligne qui fait que la plainte est retenue ou pas. Tu dois te sentir menacé. T'as pas besoin d'être terrorisé chez vous à pas sortir de ta maison, mais tu dois te sentir menacé pour que la plainte soit retenue. Moi, oui, je me sens menacée par ça. Est-ce que j'ai peur? Ça, c'est un autre dossier. Mais il reste que c'est pas normal de recevoir ce genre de message-là. On est dans une société qui se dit évoluée et on se fait traiter, on se traite comme ça entre nous. Ça n'a pas de bon sens. Faut envoyer un signal clair que c'est tolérance zéro. Puis parce que tu sais, t'as beau pas avoir peur nécessairement d'un individu précis. Il reste que tu engendres la haine quand tu tweets un message comme celui-là, quand tu répands un message comme ça dans la population. Puis il s'agit d'une nanoseconde là, où quelqu'un va arriver avec un instant de folie, puis pouf, il y a un coup qui est parti. Puis je veux pas avoir l'air de dramatiser. C'est ça la réalité. Puis on l'a vu dans plein de cas là, où ça a dégénéré comme ça. Là.
Qu'est-ce que ça a changé dans ton attitude, le fait d'avoir été victime de ces menaces de mort?
Je suis de moins en moins tolérante sur les messages moins agréables qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Puis moi, je bloque à peu près jamais personne dans la vie sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que cet outil-là, il est utile et je l'aime parce que moi, je fais ce métier-là parce que j'aime le monde dans vie. J'aime ça discuter avec les gens. Ma plus belle paye, moi, c'est pas le chèque qui rentre dans mal, c'est quand je sors sur la rue puis quelqu'un vient me jaser puis qui m'appelle par mon nom. Mmh. Et ce médium-là de réseaux sociaux, pour moi, il est utile pour ça. Sauf que quand ça dégénère, ben, à un moment donné, ça devient moins le fun. Ça vient avec un double tranchant. Sauf que je m'enlèverai pas des réseaux sociaux pour ça, mais ouais. Il reste que maintenant, quand ça escalade, je suis vraiment à tolérance zéro. J'accepte plus rien.
Annie Soleil-Proteau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci bien. On s'attend. On s'arrête ici. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.